Vous écoutez RFI Radio France Internationale, il est 7h30 à Paris, 5h30 temps universel. Et pour l'actualité africaine, Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Nous serons au Soudan dans cette édition où les déplacés reviennent progressivement chez eux malgré la poursuite des combats. À suivre également le Niger où 5 ressortissants indiens ont été enlevés le 25 avril dernier, mais on l'a appris que ce lundi, ils travaillaient pour la construction du barrage de Kandaji. Et puis cela fait 100 jours pile que Donald Trump est de retour à la Maison Blanche. On en parlera avec l'invité Afrique ce matin, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Centrafrique. Et puis surtout, RFI sera en édition spéciale entre 6h et 8h temps universel d'ici une demi-heure donc. Andréane Mellard sera avec les correspondants et envoyés spéciaux de la Radio du Monde et recevra plusieurs invités pour analyser et décrypter ses 100 premiers jours. Enfin, en République démocratique du Congo, la SADC a officiellement commencé à retirer ses troupes de Goma hier par la route. On fera le point dans cette édition. Au Soudan, malgré la guerre, le nombre de déplacés internes diminue depuis décembre 2024. L'Organisation internationale des migrations a noté une baisse de près de 2,5% due au retour de certains déplacés. Près de 400 000 d'entre eux sont rentrés chez eux dans les états d'Al Jazeera, Sennar et Khartoum. Dans la capitale, justement, récupérée fin mars par l'armée, ceux qui reviennent retrouvent bien souvent leur maison en ruine. C'est un reportage de notre envoyé spécial Gaël Lalex.
Al-Taïb Abbas Khalifa est rentré de l'état d'Al Jazeera il y a quelques jours. La mine dépité, les larmes aux yeux, il visite le quartier de Bouri où il a toujours vécu.
Ça, c'est notre maison. Quand les FSR sont arrivés, ils nous en ont chassés. Ça, c'est notre salon. Là, c'est la cuisine. Et puis la salle à manger où la famille se retrouvait. On avait des lits, une table, un réfrigérateur, des chaises.
La maison d'Al-Taïb n'est aujourd'hui qu'un tas de gravats. Les paramilitaires des forces de soutien rapide l'ont pillé. Tout le quartier a subi le même sort. Mahassine Moussa Ibrahim est revenu il y a un an, avant même que l'armée ne reprenne la capitale.
Je me sens triste et frustrée, c'est une injustice. Tous nos biens, nos économies ont disparu du jour au lendemain, volés. Quand les FSR ont atteint l'état d'Al Jazeera, où l'on était réfugié, j'ai préféré rentrer. Autant mourir à la maison.
Mustapha Omar Ahmed est rentré il y a 6 mois. Il espère rapatrier bientôt sa famille, mais tout est à reconstruire.
On s'en sort, mais on n'a pas d'eau, d'électricité et de services de base. J'attends que les gens rentrent pour pouvoir acheter des meubles et des biens. Je n'ai pas d'argent et il n'y a pas de travail. Ce sont ceux de la diaspora qui nous envoient de l'argent pour survivre.
Selon l'OIM, le Soudan dénombre encore près de 11,5 millions de déplacés internes. Gaël Lalex, de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
Gaël Lalex, qui toute la semaine vous propose une série de reportages exceptionnels tournés à Khartoum, la capitale soudanaise, à retrouver également sur le site de RFI. L'enlèvement au Niger de 5 ressortissants indiens. Le rapt a eu lieu le 25 avril dernier dans la région de Tillabéri, mais on ne l'a appris que lundi. 12 soldats nigériens ont été tués au cours de cet enlèvement. Ces techniciens et ingénieurs indiens travaillaient pour la construction du barrage de Kandaji, Pierre Firsion.
Ces hommes ont été enlevés non loin de la bourgade de Sakoira, dans la région de Tillabéri. Tous travaillaient pour le compte d'une entreprise chargée de la construction de la ligne électrique du barrage de Kandaji. Selon la presse indienne, ces travailleurs sont originaires du district de Giridi, dans l'état indien du Jharkhand. Ces 5 ressortissants ont été enlevés vendredi, après une attaque djihadiste, attaque qui a coûté la vie à 12 soldats nigériens, qui assurait la sécurité de ses travailleurs. Les ravisseurs ont ensuite pris la fuite avec leurs otages en direction de la frontière malienne toute proche. Cette zone, au nord de la région de Tillabéri, située à la jonction des trois frontières, est actuellement sous le contrôle de l'EIGS. Si pour l'heure Niamey n'a pas communiqué sur cet enlèvement, les autorités indiennes s'activent, elles, pour obtenir une libération rapide des otages. Selon la presse indienne, le gouvernement de l'état du Jharkhand a déclaré lundi avoir intensifié ses efforts pour faire libérer ses ressortissants, une action menée en collaboration avec le ministère indien des Affaires étrangères.
Les précisions de Pierre Firsion. Le Niger, toujours, où l'otage autrichienne Eva Gretzmacher serait vivante, selon une photo diffusée hier par le média nigérien Aïr Info. Le cliché est légendé par la phrase « Preuve de vie de l'autrichienne Eva Gretzmacher, détenue par l'EIGS au Mali ». Elle avait été enlevée le 11 janvier à son domicile à Agadez. En en République démocratique du Congo. La SADC a officiellement commencé à retirer ses troupes de Goma. Hier, surnommée Sami RDC, cette force militaire était déployée dans la province du Nord Kivu depuis décembre 2023 en soutien à l'armée congolaise et pour empêcher la progression des combattants de l'AFC M23. Mais depuis la prise de Goma par ces rebelles du M23 en janvier, les troupes de la SADC, estimées à environ 1300, ont trouvé refuge auprès de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Alexandra Branjon.
Des dizaines de camions transportant du matériel, des véhicules blindés, les habitants de Goma ont assisté tôt le matin au départ des troupes de la SADC. Il s'agit du premier contingent à quitter Goma, confirme un porte-parole de l'organisation régionale, sans préciser leur nombre. Ils sont partis tôt par la route, ajoute-t-il, traversant la frontière avec le Rwanda. Depuis la prise de Goma par l'AFC M23, cette force de la SADC s'était retranchée sur plusieurs bases des Nations Unies sans pouvoir en sortir. Le mois dernier, la SADC a mis fin à son mandat et négocié son retrait immédiat via l'aéroport de Goma. Selon un chercheur, l'Afrique du Sud, le plus gros contributeur de soldats à cette force, voulait éviter un retrait par la route, craignant une humiliation publique. La mission est particulièrement impopulaire en Afrique du Sud après la mort de 14 soldats sud-africains. Mais l'aéroport de Goma étant toujours hors d'état, Pretoria n'a eu d'autre choix. Ce premier contingent de la SADC devrait rejoindre la Tanzanie par la route. Il s'agit d'un retrait progressif qui devrait s'achever fin juin, ajoute le porte-parole de l'organisation régionale.
Le président congolais Félix Tshisekedi, lui, s'est montré confiant. Quatre jours après la signature à Washington d'une déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda, le président Félix Tshisekedi a salué une avancée majeure sur le chemin de la paix hier à Kinshasa lors d'une conférence de presse.
RFI à Bangui, 99.8 FM.
En République centrafricaine, une plainte a été déposée contre le chef d'état-major de l'armée centrafricaine, le général Zéphirin Mamadou. À l'origine de cette plainte, l'Observatoire pour la gouvernance démocratique en Centrafrique, une organisation de la société civile qui accuse l'officier de complicité et crimes contre l'humanité après la diffusion il y a deux semaines de deux vidéos sur les réseaux sociaux, vidéos dans lesquelles on peut voir des militaires centrafricains infliger des sévices à des civils, dont des femmes allaitantes dans des chantiers miniers. Cette situation continue de susciter des vagues de réactions dans le pays, comme celle d'Elizine Gemale, le coordinateur de l'Observatoire pour la gouvernance démocratique en Centrafrique.
Ce sont les militaires centrafricains qui ont infligé ces sévices sur la population civile. Nous avons pensé que c'est un crime contre l'humanité. Le SEMA avait la responsabilité de traduire ces militaires devant la justice. Il ne l'a pas fait. Au contraire, dans son communiqué, il a pris le soin de les défendre. En faisant ainsi, nous avons constaté qu'il est complice. Et donc c'est pourquoi nous l'avons esté en justice comme complice conformément aux articles 12, 13 et 14 du code pénal de notre pays. Alors nous demandons à la cour martiale de reconnaître sa culpabilité et de le condamner à un dommage-intérêt de 200 millions de francs CFA pour les victimes directes. Et aussi nous, tous les Centrafricains qui ont visionné cette vidéo ont aussi subi un dommage moral. Et donc nous demandons l'application de l'article 105 du code de justice militaire, c'est-à-dire son emprisonnement à perpétuité. Nous ne voudrons plus que le général Zéphirin Mamadou soit à la tête de notre armée.
La Guinée a passé hier son examen périodique universel devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Cet examen organisé tous les 4 ans évalue l'évolution de la situation des droits humains dans le pays. Le ministre guinéen de la Justice a ainsi présenté son rapport lors d'un propos liminaire. Puis c'était aux délégués de la quarantaine d'États membres du Conseil de poser leurs questions ou d'exprimer leur inquiétude au sujet des violations des droits humains auxquelles le ministre a répondu, Sabine Mélé.
Plusieurs délégués s'interrogent sur la fermeture des principaux médias audiovisuels du pays depuis bientôt un an. Des fermetures que le ministre de la Justice, Yaya Keraba Kaba, a justifiées.
Nous souhaitons qu'il soit tenu tout d'abord du contexte de la transition, qui est une période extrêmement sensible où chacun doit pouvoir faire attention à ses propos, à ses gestes. Le dérapage de certains médias nous ont préoccupés au point que des mesures préventives ont été prises dans le souci du maintien de l'ordre public.
Le garde des Sceaux n'a pas répondu aux nombreuses interpellations, dont celle de la France et de l'Allemagne sur la question des disparitions forcées. Souleymane Sow, directeur exécutif d'Amnesty International, a lui aussi relayé les demandes.
Cela nous inquiète énormément, nous interpelle encore plus, parce que ça fait très longtemps que nous demandons à l'État guinéen des clarifications, des explications.
Les autorités avaient pourtant annoncé lancer des enquêtes sur les disparitions. Il y a près d'un an, des leaders du FNDC, Fodni Kemenge et Mamadou Biloba, mais pour l'heure, aucun résultat n'a été présenté. Mêmes interrogations concernant l'enlèvement du journaliste Habib Marwan Camara, également enlevé par des hommes en uniforme en décembre dernier. Mais le ministre de la Justice a, une fois de plus, esquivé toutes les questions sur leur cas.
La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains, Marie Laylor, a elle demandé aux autorités guinéennes de fournir des informations sur le sort de Fodni Kemenge et Mamadou Biloba. Au Mali, hier soir, fin des discussions sur l'avenir des partis politiques, des discussions boycottées par la plupart des formations du pays. Les délégués présents, eux, ont publié des recommandations, parmi elles la dissolution des partis politiques maliens et l'installation du général Assimi Goïta à la présidence de la République pour les 5 ans à venir, sans élection donc. Et cela fait plusieurs semaines que de nombreuses voix de la scène politique malienne dénoncent une mise en scène destinée à mettre un terme au multipartisme. Enfin, c'est un documentaire qui fait vivement réagir au Kenya et une projection privée a été interdite dans le pays. Le programme en question a été réalisé par la chaîne britannique BBC qui a enquêté sur les violences policières du 25 juin 2024. Ce jour-là, des milliers de Kenyans descendaient dans la rue pour protester contre la loi de finances publiques. Les forces de l'ordre ont alors répondu avec une extrême violence. Plusieurs morts ont été à déplorer. La BBC, elle, pointe du doigt le rôle des forces de l'ordre. Alban Tiroir.
Le documentaire de la BBC revient sur le meurtre de 3 jeunes manifestants non armés aux alentours du Parlement le 25 juin dernier. Après avoir analysé plus de 5000 images, l'enquête conclut qu'ils sont morts suite à des tirs d'un policier et d'un soldat. Depuis, les appels à la justice se multiplient. Amnesty International, notamment, a lancé une pétition en ligne appelant à la mise en place d'une commission d'enquête. Irungu Houghton est le directeur exécutif de la branche kenyane de l'ONG.
BBC has done more.
La BBC a été capable de nous en dire plus sur les événements autour de l'invasion du Parlement que nos propres institutions chargées de faire respecter la loi. Nous sommes profondément inquiets de ne pas avoir vu de poursuites pénales ou de condamnations d'agents de l'État soupçonnés d'avoir tué, enlevé, intimidé et blessé des Kenyans. Ce manque de justice est très inquiétant, car il envoie un message à tous les officiers de l'État qu'ils peuvent ne pas respecter la loi, commettre des crimes graves et ne pas craindre de représailles judiciaires.
Of the law being applied to them.
La police des polices affirme que sur 60 cas de décès déclarés lors des manifestations, 22 enquêtes ont été conclues, 36 sont toujours actives et 2 sont devant les tribunaux. Mais la polémique continue d'enfler. Selon la presse kenyane, la BBC a été contrainte d'annuler une projection privée lundi soir suite à des pressions des autorités. Le documentaire est pourtant disponible sur YouTube. Il avait déjà plus de 3 millions de vues mardi soir. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Arnaud Pontus.
Merci à vous Grégoire Morelli. 7h43 à Paris. RFI Matin, à l'heure américaine, 100 jours après le retour au pouvoir de Donald Trump, édition spéciale à 6h10, temps universel, et dès les prochaines minutes, le regard de l'ancien ambassadeur américain en Centrafrique, Jeff Hawkins, il est notre invité Afrique, la politique pétrolière de Trump,